Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27e épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors Guillaume, nouvelle semaine de Ligue des Champions qui débute donc ce mardi. On aura un club italien qui sera concerné, mais on en parlera dans un débrief la semaine prochaine. On va se focaliser plutôt sur la Serie A, la 23e journée de Serie A avec... Bah écoute, un peu une espèce de statu quo, hein, notamment au niveau de la course à la quatrième place. C'est un peu notre scudetto à nous, puisque pour le vrai scudetto, malheureusement ou heureusement pour les supporters de la Juve, mais le suspense est assez est tout relatif.
Pour le suspense, ouais.
Voilà, avec la Juve qui a repris encore des points d'avance sur la Napoli à la faveur de cette 23e journée de Serie A. Et puis au niveau de la quatrième place, tous les clubs ont gagné, troisième et quatrième place, maintenant on inclut même la troisième place dedans, tous les clubs ont gagné, donc on va débriefer un petit peu tout ça. Je te propose de ne pas faire comme d'habitude pour une fois et de pas commencer par le dernier match de la journée, mais par ce qui était le choc, on va dire, un peu de cette journée, même s'il n'y avait pas de gros affrontements pour une fois, parce que c'est vrai qu'on vient de une dizaine de semaines où il y avait chaque semaine un choc entre grosses formations. Là, il y avait quand même un match très très intéressant entre la Fiorentina et le Napoli, qui a accouché malheureusement d'un 0-0, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, et notamment, je propose de commencer assez rapidement par la Fiorentina, et puis après on débouchera sur le Napoli, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et ça fait plusieurs semaines que j'ai envie qu'on parle un peu du Napoli d'Ancelotti. Et il y a quand même
tu commences ou je commence?
Allez, vas-y, je te laisse commencer par la Fiorentina. Je pense qu'on sera d'accord sur le le joueur à mettre en avant en tout cas.
Évidemment, évidemment, Alban Lafont. Alban Lafont qui a encore réalisé un gros match. C'est peut-être son meilleur match à la Fio, parce que c'était déjà un gros match et pour le coup il a vraiment tout sorti. Alors parfois aussi par, j'ai envie de dire par maladresse de Mertens qui voilà a pas tué devant le but. Mais Lafont a quand même réalisé un gros match, salué par toute la presse italienne de ce que je disais hier. Voilà, c'est un peu son match référence. Il avait été recruté, je crois, autour de 8 millions l'été dernier. Donc voilà, c'est pas non plus une somme énorme. Et c'est vrai qu'en Italie, autant nous, franco-italiens, on le connaissait forcément au vu de son passé à Toulouse. Mais c'est vrai que Lafio, il le découvrait, c'était un jeune. Et c'est vrai que voilà, il est de plus en plus sûr dans ses arrêts, dans ses arrêts réflexes, dans son positionnement sur la ligne, sa vitesse à aller au sol. Le seul petit bémol, peut-être encore un peu le jeu au pied. Voilà, il pourrait peut-être un peu encore progresser, mais il est encore très jeune. Donc évidemment qu'il a le temps, mais c'est vrai que Alban Lafont a vraiment tout sorti hier, et ça fait que confirmer quand même un bon début de saison. Bah là, c'était pas non plus un grand début de saison, mais pour ses débuts en Serie A, voilà, moi je trouve que c'est très convaincant. Il s'est vite adapté au jeu de Lafio. Donc non, un coup de chapeau à lui, parce que c'est vrai que bon bah si c'est un autre gardien, je pense que le Napoli va ramener les 3 points. Et c'est vrai que je pense que tu seras d'accord avec moi, c'était quand même l'homme du match samedi.
Oui, tout à fait. Alors on avait une question de Kams qui nous disait un mot sur la prestation d'acteur d'Alban Lafont, donc qui a visiblement adoré la prestation du jeune français. Et puis il me semble qu'il y en avait une deuxième, mais je la retrouve plus. Sur fallait faire un petit bilan d'Alban Lafont depuis qu'il est en Serie A, mais grosso modo il y a du bon et du moins bon. C'est assez normal aussi avec un si jeune joueur qui découvre évidemment une nouvelle réalité, et on sait que dans le poste de gardien la communication est essentielle, et évidemment que plus vite il apprendra de manière définitive et complète l'italien, mieux ça ira aussi. Là, il en est à ses premiers mois simplement dans les buts de la Viola, et je dois dire que globalement, il fait une bonne saison. Après, il y a eu des petites erreurs. Je me souviens du match à Sassuolo, il y a eu une petite erreur. Bon, ça arrive encore évidemment. Ce qui va améliorer, je pense, c'est son niveau de concentration tout au long d'un match, et puis comme tu le disais, son jeu au pied qui est encore largement perfectible. C'est un domaine sur lequel il doit pas mal travailler, mais globalement dans la consistance et notamment dans les arrêts décisifs face au but qui ne viennent pas de frappe de loin mais qui sont des arrêts vraiment de 1 contre 1, il commence à vraiment avoir des références solides maintenant en Serie A. Autre joueur dont je voulais parler aussi du côté de la Fiorentina et qui me plaît de plus en plus et dont l'évolution est assez intéressante, parce que en France, un autre français pour le coup, en France, il était vu comme un jeune prometteur, mais qui, en tout cas, moi, j'avais du mal à voir sa progression de mois en mois sur la fin de ses prestations au FC Nantes. C'est Jordan Veretout. Hier encore, il fait un match très très intéressant avec de l'agressivité, pardon, du caractère, de la personnalité, un gros pressing dans les jambes adverses quand son équipe est un peu sous pression. Voilà, en plus il a une qualité de passe avec jeu court, jeu long qui est assez intéressant aussi, intéressante pour le coup. Donc vraiment c'est un joueur qui progresse beaucoup aussi. On se demande même si il pourrait pas avoir quelques courtisans dès cet été, puisque en plus il a cette faculté à jouer soit devant la défense où il avait été replacé à un moment donné par Pioli, soit en relayeur un peu plus haut. Là, il a joué dans un milieu à deux, un double pivot dans la défense, parce qu'il joue avec une défense à trois face au Napoli. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, quel est son niveau maximum? Je ne le sais pas encore. Est-ce qu'il pourrait être titulaire dans un club comme Naples, justement, comme la Roma ou Milan? Je ne sais pas encore. Il a 25 ans, donc il a encore...
marge de progression.
Ouais, une marge de progression évidemment. Donc à voir, mais c'est vrai que là pour le coup, comme pour Lafont, la Fiorentina fait une belle opération en recrutant ce joueur qui avait un beau potentiel mais qui le matérialisait pas toujours. Et là vraiment dans un rôle un peu plus reculé sur le terrain, on voit vraiment de très bonnes choses de lui.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a pris une autre dimension à la Fiorentina. C'est vrai, comme tu dis, il avait un potentiel, mais c'est vrai que la Fiorentina, il réalise vraiment que des bonnes prestations depuis qu'il est arrivé. Et moi, j'ai eu la chance d'interviewer, tu vois, Brian Dabo, j'ai eu Valentin Esric. Et c'est vrai que tu vois, tous m'ont souligné tout de suite l'apport de Veretout. que ce soit dans le jeu et même dans la leadership, ouais, dans le vestiaire, dans ce qu'il apporte. C'est vraiment un taulier de la FIO. Et c'est vrai que tu vois, même naturellement, ils m'en ont parlé sans que je leur demande. Donc c'est vrai que tu sens qu'il a pris une importance quand même assez grande dans le vestiaire. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que sur le terrain, voilà, il est, comme tu dis, son potentiel est énorme. Et il a 25 ans, donc en soi, il est dans la force de l'âge. Donc rien ne te dit qu'il n'a pas le niveau pour, comme tu disais, pour le Napoli, pour le Milan, pour la Roma. C'est possible. Après, je suis un peu comme toi. C'est vrai que j'ai un peu de mal à imaginer son plafond de verre, savoir jusqu'où il peut aller. Je serais curieux de le voir dans un plus grand club, entre guillemets. Après, ce qu'il réussirait, c'est autre chose. Mais c'est ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'il est à la FIO, c'est vraiment devenu un taulier. Pioli, d'ailleurs, la ligne à chaque match, c'est vraiment le leader du milieu de terrain. Comme tu disais, peu importe les postes, il est toujours bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir souligné les performances de Veretout.
Alors, cette fois-ci du côté du Napoli plutôt, l'heure de faire un petit point quand même sur le Napoli de Carlo Ancelotti, parce qu'on en a parlé de façon assez épisodique depuis le début de la saison, pour souligner certaines facettes de son management ou de ses apports tactiques au fur et à mesure des matchs.
Tu veux faire un petit bilan?
Un premier petit bilan, parce qu'on va être à 6 mois de compétition, 23e journée, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, je propose qu'on parle d'abord des résultats, pour voir où ils en sont, et après on fera le bilan du jeu, entre guillemets, et de ce qu'on a pu voir sur le terrain depuis la prise de fonction de l'ancien coach du PSG. Dans les résultats, Naples est globalement dans les cordes en championnat, parce qu'elle est deuxième, c'est une deuxième place qui est confortable par rapport au troisième, quatrième, donc on l'imagine assez aisément aller au bout tranquillement pour une qualification directe en Ligue des Champions.
Oui, ça devrait aller.
Ça, c'est bon. Après, on fera un point spécifique par rapport au Napoli de Sarri. En Ligue des Champions, par contre, c'est vrai qu'en quand on a vu le tirage, on s'est dit que ça va être très compliqué pour eux. Mais au gré des résultats, sachant que Naples avait toutes les cartes en main avant les deux dernières journées pour réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est une déception de ne pas voir le Napoli qualifié pour les huitièmes de finale. Carlo Ancelotti avait même dit on serait des couillons si on réussit pas à se qualifier, et résultat, ils ne sont pas qualifiés. Donc le fait d'être reversé en Europa League est un demi-échec, parce que si on parle juste de notre avis, notre impression au tirage au sort, c'était évidemment très compliqué, mais au bout de 4 journées, le Napoli était quand même dans une position favorable pour se qualifier. Donc ça, c'est un demi-échec. Et puis le gros échec, c'est en Coupe d'Italie, où c'était devenu une sorte d'objectif, parce que on savait très bien qu'il pourrait pas lutter pour la Serie A, pour le titre de champion en Serie A, qui pourrait pas du coup jouer en Ligue des Champions. Donc c'était devenu un objectif, et ils sont tombés sur le Milan de Piontek en étant éliminés en quart de finale. Donc ça, c'est une vraie déception. Donc sur les résultats purs et simples, on va dire que c'est correct, mais que c'est pas dingue non plus, globalement.
Écoute, je suis assez d'accord avec toi. La grosse déception, comme tu dis, même si c'était pas l'objectif principal, c'est la Coupe d'Italie. Parce que, une fois arrivé à ce stade-là de la saison, quand tu vois qu'en championnat, c'est compliqué et que la Juve, tu pourras pas la rejoindre, la Coupe d'Italie devenait évidemment l'objectif, pour au moins avoir un trophée. C'est ce qu'attend le Napoli depuis longtemps. Il y a eu les belles années de Sarri, mais Sarri, malheureusement, a pas apporté de coupe. Donc, c'est vrai que la Coupe d'Italie était devenue, en cours de saison, un objectif. Voilà, ils ont perdu contre Milan, comme tu l'as dit. La Ligue des Champions, on peut dire ce qu'on veut, ils ont quand même eu pas de chance dans le tirage. Ils ont eu Liverpool.
Mais ils ont quand même très mal géré certains points.
Mais voilà, exactement. Ce que j'allais y venir, c'est que au vu de comment c'était mis le classement, ils devaient se qualifier. J'ai dans la tête ce but qu'ils prennent sur le 3-0, tu te souviens, et oui, ce but qui change tout avant
contre
le match
contre
Liverpool. Exactement. C'est un but tout bête, mais qui change tout dans la physionomie du match contre Liverpool. C'est les erreurs qui n'auraient pas dû avoir lieu, et du coup, ils sont éliminés bêtement contre Liverpool, dans le sens où ils avaient clairement la place pour jouer en huitième de finale, ils l'ont pas fait, alors que la qualif était pas loin. Donc, au niveau des résultats, comme tu dis, c'est correct. J'ai envie de te dire correct, mais parce que il manque quelque chose. Toi, la Coupe d'Italie, je pense que c'était vraiment un objectif qui s'était devenu. Après, il y a l'Europa League, donc. Est-ce que le Napoli peut aller loin en Europa League?
Oui.
Moi, j'ai envie de te dire que oui, parce qu'ils ont déjà l'effectif, et en plus ils ont l'entraîneur qui a quand même cette expérience au niveau européen. Et j'ai envie de te dire que c'est devenu forcément un objectif, l'Europa. Oui. Il y a plus que ça à jouer maintenant. Comme tu dis, la Ligue des Champions en Serie A est quasiment acquise. Voilà, à partir de la troisième place, ça va jouer entre l'Inter, Milan, la Roma, la Lazio, etc. Donc là, il n'y a plus beaucoup de suspense.
On va rappeler, hein, ils ont 12 points, non, 14 points d'avance sur le cinquième. Donc,
voilà, donc, autant dire que, ouais, que c'est quasiment acquis. Voilà, évidemment qu'il, voilà, il faut respecter leur standing quand même en Serie A chaque week-end, mais on, voilà, on peut dire que c'est quasiment acquis. Mais c'est vrai que, il n'y a plus que l'Europa League à jouer. Donc,
et
forcément,
en Europa League, ils affronteront donc Zurich. Donc c'est largement, ouais, à leur portée pour.
Tu penses qu'il va faire jouer l'équipe titulaire, ou qu'il va faire peut-être un peu tourner, selon toi?
Je pense qu'il risque d'y avoir un peu de turnover.
Ouais.
Mais après, voilà, il y a
des joueurs comme ça.
Ouais, ou peut-être on verra Ounas aussi.
Ouais.
Mais en même temps, ce serait pas idiot non plus de concerner un peu plus de joueurs et pour aller au bout de la saison avec un peu tout le monde, parce que là on a vraiment l'impression, on y reviendra après dans le jeu, mais que il y a un 11 qui se dégage maintenant de façon claire et nette et que c'est difficile maintenant pour les autres joueurs de bousculer ce 11.
Est-ce que tu penses que c'est un 11 peut-être un peu trop figé? Moi c'est ce que je lis beaucoup sur Twitter. Beaucoup reprochent à Ancelotti, tu vois, de pas s'échanger.
Après c'est oui sans doute oui par rapport à d'autres clubs où ça tourne un peu plus.
Oui.
Après ils sont quand même beaucoup épargnés aussi par les blessures. T'as d'autres clubs où ça tourne plus, mais en raison des blessures.
Évidemment. Si on comme pense à la Roma, au Milan, par exemple.
Voilà, à la Roma, si on pense au Milan, même à l'Inter, il y a eu des blessures, Nainggolan, etc. Donc ça tourne un peu plus. Est-ce que c'est trop figé? Disons qu'il y a des mauvaises séries au niveau des attaquants et c'est vrai que ou des ailiers, ça pourrait tourner un petit peu plus. Et justement, pour parler du jeu en lui-même, là par contre, alors c'est, j'ai envie de dire, malheureusement pour Ancelotti, c'était un peu couru d'avance que dans le jeu, ça serait forcément une déception par rapport à ce que Sarri avait mis en place. Parce qu'il n'y a pas deux Sarri capables de faire la même chose. Et donc Ancelotti, on le connaît un peu plus conservateur, entre guillemets. Et donc c'est évident qu'on n'allait pas revoir les actions de jeu typiques du jeu de Sarri. Donc ça, c'est évidemment, dès le départ, on savait que ça allait être décevant. Ça l'est un peu, je dois bien l'avouer. Je trouve que l'équipe, au fur et à mesure de la saison, elle est devenue un peu plus banale, en fait. Un peu moins d'éclat, un peu moins de cohésion d'équipe. Et ça m'embête un peu plus. Je trouve qu'elle est de plus en plus dépendante d'exploits individuels. Et ça, alors ça, c'est une bonne chose quand tes joueurs sont en forme. Mais quand il traverse une période un peu compliquée, comme l'a vécu Lorenzo Insigne, comme est en train de le vivre Dries Mertens, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On se souvient par exemple des coups francs de Milik. C'est vraiment des exploits personnels qui parfois permettent à
Cagliari, à Bergame.
Voilà, au Napoli de prendre des points. Donc c'est vrai que sur le plan du jeu, c'est un peu plus compliqué. Il y a des joueurs qui sont vraiment à la peine offensivement. Je regardais tout à l'heure un peu leurs résultats récents et me les remémorer. On est quand même à 0 but sur les 4 derniers matchs à l'extérieur.
Oui.
Alors certes, ouais, c'était 2 contre le Milan, 1 contre l'Inter, 1 contre la Fiorentina, donc c'est pas non plus des déplacements toujours faciles, mais quand même 0 but sur les 4 derniers matchs, c'est marquant. Face à la Fiorentina, ils finissent avec une valeur expected goals de 3 et ils mettent pas un seul but. Alors la faute à Lafont, on en a parlé juste avant. Mais aussi à la maladresse de Mertens, comme tu l'avais souligné, il a quand même deux face à face où il est vraiment seul devant Lafont, qu'il ne parvient pas à conclure, et ça devient un vrai problème parce que Insigne a eu un peu la même disette de buts pendant, je crois que c'était 7 ou 8 matchs. Là, Mertens, il doit en être à peu près au même niveau. Heureusement, Milik est en forme, mais là aussi sur ce match-là, Milik a raté une grosse occasion. Donc voilà, les coups d'éclat individuels ne permettent plus, puisqu'il n'y en a plus, tout simplement, de masquer quelques incohérences de jeu. Et notamment, moi j'ai un vrai problème avec les ailiers dans un 4-4-2, avec Caleron et Zielinski, qui ne sont pas des ailiers de 4-4-2 pour moi. Et voilà, ça commence à se voir, ils sont pas assez décisifs non plus devant le but, ces deux joueurs. Je regardais tout à l'heure les stats avancées de Caleron. Je crois qu'il est à 3, il a marqué qu'un seul but alors qu'il devrait être à 4. Il devrait être à 4 ou 5 buts, je crois, selon les expected goals de mémoire. Zielinski est sous performe aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué dans.
Est-ce que le plus inquiétant, c'est pas Mertens? Parce que Mertens, ça commence quand même à faire oui. beaucoup. Dans le sens où...
Après, c'est moins inquiétant puisque Milik arrive à prendre la relève. Mais c'est vrai que si, comme ce week-end, tu décides d'aligner Mertens in-signé...
Évidemment.
Bah voilà, c'est plus compliqué.
Évidemment. Mais c'est vrai que Mertens, ça fait quand même quelques mois. J'allais dire quelques matchs, même quelques mois, tu te rappelles, on en parlait déjà, il y a quand même plusieurs podcasts. Donc, ouais. C'est inquiétant. Et c'est vrai qu'il a quand même du mal à se remettre en route. Hein. Il marque pas, il rate des buts quand même qui, voilà, lui qui a fini quand même des saisons avec pas mal de buts, il arrive même plus à en mettre un, même des face à face, il arrive plus à les conclure, donc c'est vrai que ça c'est inquiétant. Et le problème, c'est que quand Milik est pas là pour récupérer ou rattraper le coche, bah c'est compliqué. Donc voilà, après il l'a sorti et c'était tout ça un peu mieux, mais c'est vrai que Mertens c'est aussi inquiétant. Après voilà, il y a aussi la production offensive qui peut aussi discuter, mais Mertens intrinsèquement parlant, moi, je trouve ça quand même assez inquiétant pour le moment.
Alors, si on fait une comparaison rapide de chiffres, alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment, avec la dernière saison de Sarri, ils ont quand même 8 points de moins en championnat, sachant que le Napoli était leader à la même période au bout de 23 journées la saison passée avec un point d'avance sur la Juve. Donc, c'est à la fois la Juve qui est plus forte, ou en tout cas qui ramasse plus de points, et en même temps le Napoli qui bah lui en glane un peu moins et qui en laisse beaucoup plus en route, 8 de moins en tout cas. Ils ont marqué 8 buts de moins aussi que sous Sarri et ils en ont encaissé 4 de plus. Les buts encaissés, c'est pas trop problématique parce que globalement ils ont quand même une défense assez solide et on le voit à peu près à chaque rencontre. Par contre, dans la production de jeu, le fait de se créer des occasions, alors là on affirme tout ça après un match où ils ont eu beaucoup d'occasions pour le coup, donc c'est vrai que il y a peut-être des auditeurs qui vont dire oui, mais contre la Fiorentina avec des expected goals à 3, ils auraient dû remporter ce match-là, ce qui est vrai. Mais si on fait là on parle d'un bilan global sur les 6 premiers mois de d'Ancelotti à la tête du Napoli, c'est vrai que la production offensive est un peu sous-performante. Voilà, on va dire ça comme ça, et c'est vrai qu'on attend quand même plus de cette équipe. Il y a aussi des choix qui était séduisant à certains moments et on s'en était fait l'écho dans ce podcast, notamment des milieux de terrain axiaux qu'il mettait sur les côtés pour densifier son entrejeu, etc. Mais c'est vrai que quand, à l'inverse, il doit produire du jeu, ça devient plus compliqué. Zielinski est pas du tout un ailier gauche comme on l'entend, et c'est même pas non plus un joueur qui va beaucoup, voilà, on a des milieux en faux pied qui rentrent à l'intérieur, etc. Lui, c'est, en l'occurrence, c'est pas un faux pied, donc, non, c'est assez compliqué. Je vois beaucoup de marge de progression et d'amélioration quand le Napoli a le ballon, et pour le moment la production est décevante. Donc on verra ce que ça va donner. Là, ils ont un match d'Europa League contre Zurich, c'est le 14 février, et puis ensuite ils reçoivent le Torino, où là ça risque d'être très très physique sur le terrain, évidemment, comme
retour
toujours
de Mazzarri.
Exactement.
On retrouve avec Mazzarri encore une fois.
Ouais. Toujours, et puis ils ont un calendrier qui va un peu se densifier, puisque après ils vont à Parme avant de recevoir la Juve, d'aller à Sassuolo, et puis bon, après il y aura d'autres échéances qui viendront. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant je suis si on devait faire ensemble résultat plus jeu, je vais pas dire que je suis déçu, parce que quelque part je m'y attendais. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tu peux pas passer de Sarri à Ancelotti en disant ça va être la même
aussi,
chose.
Hein, voilà. C'est une saison de transition aussi.
Mais on va dire que j'attends plus globalement de cette équipe, et effectivement un des leviers que pourrait actionner Ancelotti, c'est donner un peu plus de temps de jeu à des joueurs comme Verdi, comme Mounas, qui sont des joueurs offensifs avec un peu plus de punch que les Caïeron ou Zielinski qui met à ces positions-là. Autre chose à rajouter sur le Napoli, où on a
non, bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi une sorte de transition. Après, voilà, c'est comme je te dis tout à l'heure, c'est correct, sans plus et sans moins. Voilà, je pense qu'il y a aussi un après Liverpool où ils ont aussi un peu de mal à digérer ce qui s'est passé à Liverpool, même moralement, c'était compliqué, surtout au vu de comment s'était mis le classement. Mais voilà, comme tu dis, moi je mets un oui, mais donc sur 10, combien on mettrait pour ce bilan de mi-saison?
Bah écoute, on mettrait un
6,5. Sachant qu'en Italie, la moyenne est un 6. Hein.
Ouais, oui, si on prend... Non, on va noter à la française, du coup, vu qu'on est français.
On note à la française.
Moi, d'accord. Je mettrais un 6,5-7. Voilà,
moi,
parce que la Coupe d'Italie, c'est vraiment, je trouve, dommage.
Oui, c'est une tâche.
Ouais,
c'est
exactement.
Une tâche, je suis d'accord avec toi.
On va passer à l'Inter maintenant, qui a galéré un petit peu sur la pelouse de Parme. Alors, n'a pas galéré, parce que bon, c'est un résultat 1-0. n'a pas galéré dans le sens où Parme se serait créé beaucoup d'occasions, puisqu'on a mis la frappe de Gervinho sur la barre en première période, il y a quand même pas eu grand chose du côté de Parme, mais a eu galère pour enfin mettre une occasion au fond et se créer beaucoup de grosses occasions. Maintenant, c'est alors il y a plusieurs choses à noter de cette victoire. La première, c'est que il respire un peu parce que il y a des clubs qui avaient mis un peu la pression, notamment la Roma en gagnant la veille et qui était revenu à deux points.
La Lazio, je veux dire.
La Lazio, qui était revenu aussi à deux points. Donc c'est vrai qu'ils avaient mis un peu la pression sur l'Inter, qui est dans un espèce de marasme communicationnel. Communicationaux sportifs, hein, c'est oui. Des choses un peu étranges qui se passent. On a l'impression qu'ils sont en train de se tirer un peu une balle dans le pied tout seul. Ouais. On va y revenir juste après. Si on parle que du terrain pour, avant de, d'évoquer le cas Spalletti, puisque je sens que tu as des choses à dire sur Spalletti. Nainggolan a réalisé son premier bon match avec l'Inter.
Oui.
Ça, bon, c'est au bout de 6 mois, mais c'est très important. Il y a eu des déclarations. On verra si elles sont suivies d'effets. Les déclarations, on sait l'importance qu'on peut leur donner ou pas. Et dans le cas de Nainggolan, on verra. Alors pour résumer, hein, il a expliqué que il avait compris certaines choses dernièrement, ces dernières semaines à l'Inter, et que jusqu'à aujourd'hui, il prenait pas trop, il ne prêtait pas trop attention au travail dit invisible en dehors du terrain, mais qu'il avait compris qu'à 30 ans, il devait changer. Bon, en gros, on sait, hein, c'est se coucher un peu plus tôt, fumer un peu moins, etc., etc. Donc on verra, hein, c'est difficile de tirer des conclusions après un bon match de Nainggolan, et notamment après ses belles paroles, on verra si elles sont suivies d'effets et si il se remet dans le bon sens de manière définitive ou pas. Et puis sur avant de une petite transition avant de parler de Spalletti, Lautaro Martinez est l'éternelle question qui, tant que la solution ne sera pas prouvée sur plusieurs semaines, bah, reviendra aux oreilles de Spalletti. C'est à quand Martinez et Kicardi? Spalletti a simplement répondu, et bon, on l'a dit plusieurs fois, hein, Spalletti, on sait que son modèle, c'est un 4-2-3-1, on sait que les ailiers ont une importance fondamentale avec lui. On se souvient qu'à la Roma, à ses tout débuts, il avait Mancini et Tadei qui apportaient beaucoup de dynamisme sur les côtés. Ensuite, quand il est revenu la deuxième fois à la Roma, il avait notamment Salah, Perotti, etc. sur les côtés. Donc c'est à chaque fois des faux pieds en plus, et c'est des joueurs très importants pour lui. Mais bon, il a dit, voilà, le problème, c'est que c'est deux numéros 9. Les fameux prime punte, hein, qui l'évoque, voilà, et il a du mal à voir l'association pour le moment entre deux numéros 9, ce qui voudrait dire Nainggolan en 10 derrière eux, et donc l'abandon des ailiers qui ont une importance prépondérante dans l'idée que Spalletti se fait d'une disposition tactique de son équipe. Donc on verra bien. Les signaux sont quand même pas très encourageants, parce qu'il a un peu expliqué que pour l'instant il voyait pas comment il pouvait les associer et mettre une équipe cohérente autour. Donc
il
voilà.
Il avait déjà essayé à quelques matchs, hein. Ouais. Il avait dit, tu te rappelles, on l'avait cité, oui, dans ce podcast, il avait dit, voilà, j'ai essayé, vous avez vu, ça n'a pas marché, du coup, en gros, maintenant, j'essayerai pas.
Mais c'est délicat d'avoir testé un match, quoi. Tu vois, c'était sur un match, je me souviens plus de quel match c'était, mais il avait essayé ça sur un match en disant, voilà, ça marche pas. Bon, on peut aussi estimer que ça.
Je me demande si c'était pas contre le Torino. Donc, quand il perd 1-0, c'est peut-être contre le Torino, hein. Je suis même quasiment sûr.
Bon, écoute.
Il me semble que c'est contre le Torino.
Mais là, c'est vrai que bon. Pour le moment, Lautaro Martinez, quand il entre, il fait assez régulièrement, même si c'est pas tout le temps, des différences. Quand il part titulaire, c'est un peu plus compliqué. Donc,
mais du moins, quand il rentre, au moins, même contre la Lazio, je me souviens, en Coupe d'Italie, il avait une occasion à la fin. Alors certes, il arrête, mais au moins, tu vois, il apporte quand même un peu plus de densité devant,
de dynamisme. Il a une
exactement.
Je trouve qu'il a des courses très intéressantes et des appels dans le dos de la défense qui sont assez intéressants.
Mais c'est assez drôle le fait qu'il allie son physique quand même, voilà, on le sait, le taureau qui est assez imposant, au fait que techniquement il est quand même assez fin.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant, et à chaque fois qu'il rentre, comme tu dis, ou il se procure les occasions pour marquer, bon, parfois il le fait pas, ou il est décisif comme Seb Diapa. Donc c'est vrai que c'est une vraie question, est-ce qu'on peut les faire jouer ensemble? Connaissant Spalletti, je pense qu'il les fera pas jouer ensemble, du moins pas maintenant, mais c'est sûr que ça peut être une idée, surtout que Icardi ne marque toujours pas.
Voilà, si on se pose la question aussi de cette association, c'est aussi parce qu'Icardi ne marque toujours pas. C'est son 7e match sans but. Alors certes, il a peu d'occasions, mais moi je reviens sur ce que je disais il y a deux podcasts, je crois. Certes, il a peu d'occasions, mais j'ai l'impression qu'il fait pas grand-chose non plus pour sortir un peu de ce tunnel. Moi, j'ai l'impression qu'il doit faire beaucoup plus sur le terrain aussi. Aller les chercher, ces ballons, provoquer.
Et les capitaines.
Voilà, provoquer le fait que les ballons puissent lui arriver. Moi, j'ai le sentiment qu'il plonge un peu dans une sorte de, je sais pas, de fatalité en se disant bon bah j'aurai pas de ballon de toute façon, donc bah je reste piqué entre les deux défenseurs centraux et puis s'il y en a un qui passe par là, je verrai bien, mais de toute façon visiblement c'est compliqué d'arriver à jouer avec moi, donc bon, je verrai bien. Voilà, j'ai un peu ce sentiment de fatalisme qui va pas trop avec son état d'esprit habituel et avec surtout ce que tu disais, le brassard de capitaine. Donc voilà, donc à voir si lui aussi réussit à se mettre un peu la tête à l'endroit. On sait que c'est aussi lié à son contrat.
Eh oui, surtout que ça s'améliore pas. Non. Son contrat, voilà, ce matin, comme tous les lundis matins, je suis allé voir le site du Mediaset et comme tous les lundis matins, j'avais la déclaration de son agent, de sa femme et agent, Vandanara, qui disait, voilà, j'ai jamais appelé l'Inter pour une prolongation. Alors après, elle précise, oui, nous, on veut rester, on veut, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, mais pour le moment, on discute pas d'une prolongation. Et là, elle rajoute toujours un petit acte où elle dit, bah, il se dit des choses sur Icardi, voilà, qui ne plaisent pas forcément. Elle dit j'aimerais que l'Inter le protège plus. Mmh. Donc tu vois tout de suite, et ben voilà, c'est reparti pour une semaine, ben, où ça va parler d'autres choses, où Icardi va encore faire la une des journaux, où il va répondre sur Instagram en disant que c'est faux. Et voilà. Et comme tu le disais, je me rappelle, il y a quand même 5-6 semaines, au tout début quand il marquait pas, je me rappelle que tu m'avais dit, mais je me demande si c'est pas lié aussi à sa, enfin, au feuilleton de sa prolongation de contrat. Et voilà, on est à 7 matchs plus tard. Et il a toujours pas marqué. Donc forcément, au-delà du terrain, il y a forcément aussi une part. La danse en Italie, pour ceux qui le voient peut-être pas forcément, c'est vraiment un feuilleton, la prolongation d'Icardi. Surtout que on va y venir après au niveau de la communication. Chacun met son petit grain de sel, que ce soit Marotta, que ce soit Spalletti, que ce soit Vandanara. Donc c'est vrai que forcément, Icardi en ressent un minimum sur le terrain aussi.
Alors tu l'évoquais, le climat, il est quand même pas très sain. Du côté de l'Inter, sur cette question de la prolongation de Mauro Icardi. On rappelle un peu ce qu'a dit Spalletti après la rencontre. En substance, on va pas lire sa déclaration, mais en substance, il a accusé à demi-mot ses dirigeants de trop parler dans la presse de la prolongation, alors qu'il serait plutôt temps de boucler les négociations. Parce que parler dans la presse, évoquer que oui, il va rester, oui, on veut qu'il reste, oui, c'est un joueur important, c'est bien, mais ça dure depuis maintenant un mois et demi à peu près, voire deux mois quasiment, non, un mois et demi plutôt, mais il n'y a rien qui change, les négociations n'ont pas avancé, l'agent et femme de Icardi continuent de parler toutes les semaines, et c'est vrai que le climat est assez malsain, et on sait que Spalletti, il peut assez vite dégoupiller et se mettre ses dirigeants à dos. Ça avait été le cas à la Roma. Là, c'est en train de tourner un peu de façon étrange quand il dit que ses dirigeants doivent arrêter de parler en clair et se mettre autour de la table pour boucler le contrat. C'est vrai que c'est un petit côté drama qui est en train de se créer tout seul l'Inter.
Et surtout que c'est pas la première déclaration qu'il fait, parce qu'on si on se rappelle du feuilleton Perisic. Tu te souviens qu'au début, du moins le feuilleton a pas duré longtemps parce qu'il a duré deux jours, quand on a su que Marotta a confirmé, je me rappelle, c'est un avant-match,
oui,
où Marotta arrive sur Sky et il déclare, bon bah oui, Perisic est mandat à partir. Et tu te rappelles, Spalletti, une fois le mercato terminé, avait dit, bah c'est vrai que si on n'avait pas, si on n'avait pas dit que lui voulait partir, forcément, ça aurait été peut-être mieux pour tout le monde, parce que on se rappelle les sifflets des tifosi. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça a créé un petit micmac, cette volonté de partir qui était officialisée. Et Spalletti avait en gros réprimandé Marotta en lui disant, bon, en gros, si tu l'avais pas dit, ça aurait arrangé tout le monde. Donc, si tu calcules ça plus la nouvelle déclaration de Spalletti avant-hier, forcément, c'est vrai que comme tu dis, une fois que Spalletti, il y a une rupture ou un début de rupture avec ses dirigeants, on sait que c'est toujours compliqué pour se faire bibocher, surtout que Spalletti, on l'a souvent dit, mais a quand même un ego assez, assez important.
Ouais.
On va dire que voilà, lui, la remise en question, on va dire que c'est assez parfois compliqué, même si ça peut même créer des fractures chez ses joueurs. Je me souviens, on en a parlé assez souvent, parfois avec ses joueurs, ça peut aussi casser. Donc oui, forcément, il y a un problème à l'Inter. Et j'ai comme l'impression que, voilà, je sais pas. Alors, je lisais aujourd'hui sur les médias italiens qui ironisait, qui disait, Spalletti essaye de se faire virer, ou il prépare ses valises.
Oui, il prépare une porte de sortie aussi, quelque part.
Oui, évidemment.
Il se dédouane un peu de tout ce qui se passe en rejetant la faute des dossiers importants sur les dirigeants.
Il est assez expérimenté pour le faire.
Bien sûr.
Il connaît très bien les ficelles du métier, il connaît très bien l'Italie, il connaît encore plus les médias. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. S'il doit partir et trouver une porte de sortie, comme tu dis, je pense qu'il n'aura pas de mal à se trouver.
Alors sur l'Inter, on a plusieurs questions via Twitter. Baptiste Duff qui nous dit que l'avenir pour Mauro Icardi un peu plus en difficulté ces derniers mois, la prolongation de son contrat traîne, il a enfin découvert la Ligue des Champions cette année. Est-ce le bon moment pour un départ?
Écoute, moi je pense que la fin de ce feuilleton sera que lui va prolonger. La volonté, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que lui il veut rester, ça il l'a toujours dit. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise ou d'une rupture ou voilà d'un accord qui est pas trouvé. Moi, je pense qu'à la fin, ça va quand même se faire. Mais c'est vrai, c'est quand c'est en longueur. Mais si tu me demandes mon avis personnel, moi, je pense que ça va se faire. Je sais pas le
on
terme.
On sait que
moi,
Wanda, en gros, elle essaie de gratter 1 ou 2 millions par mois supplémentaires pour son attaquant et qui pourrait devenir hors Cristiano Ronaldo, évidemment. Le joueur le mieux payé de
disons que ouais le salaire tourne autour des 7-8 millions
voilà et sachant qu'elle aimerait bien arriver à 9 quoi
à 9 pour acheter quelques sacs en plus
exactement autre question de l'Imperatore qu'on a déjà eu la semaine dernière. Mourinho peut-il faire du bien à l'Inter, faut-il un entraîneur plus moderne et qui propose du jeu comme Bielsa? Alors bon c'est difficile de répondre à cette question parce que Mourinho, le problème c'est que si c'est le Mourinho des 3-4 dernières années, voire 4-5, voire 5-6, c'est très compliqué. Il obtient plus trop de résultats, il est passé un peu du special one au loser one, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, voilà, vivre avec un œil toujours dans le rétroviseur avec ce qu'il a fait en 2010, je suis pas sûr que ce soit forcément une excellente idée. Il y a un entraîneur plus moderne qui propose du jeu comme Bielsa. On peut mettre un mec comme De Zerbi dans le lot aussi, ce type d'entraîneur-là. Bon, pourquoi pas. Après, on se heurte toujours aux très grands clubs et ce qui est possible de faire ou pas dans un très grand club avec tous les égos concernés par les décisions que tu prends et les risques liés au type de football pratiqué. Donc,
tu te souviens de Gasperini, hein.
Bien sûr. Je me souviens de Gasperini. Là, on parle beaucoup de Zerbi. On l'évoquait la semaine dernière en se disant où est-ce qu'il pourrait aller, etc. Bon. La réalité d'un très gros club, ça peut être parfois un peu compliqué. Et une dernière question de Antoine Marion. Nainggolan peut-il finir la saison en boulet de canon au vu de sa très belle seconde mi-temps à Parme? Bon, bah, écoute, on l'espère pour lui. On l'espère aussi pour l'Inter, c'est quand même un joueur assez... moi, j'ai toujours adoré ce joueur. Déjà à Cagliari, où il était avec Daniele Conti au milieu de terrain, et c'était vraiment un régal. Ensuite, à la Roma. Donc, bien sûr que c'est un...
Les joueurs se discutent pas.
Voilà,
façon,
après, c'est réussir à se mettre la tête à l'endroit, être focus sur le foot, avoir envie de jouer pour l'Inter. Bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites ces dernières semaines et...
Je disais quand même tout à l'heure dans la Gazzetta que dans les 7 échanges avec Nainggolan et la Roma, Zaniolo avait coûté 4 millions.
Ouais.
C'est quand même.
Oui, mais ça.
C'est quand même la double sanction.
Malheureusement pour l'Inter, on verra. Après, c'est encore très précoce pour Zaniolo.
Mais évidemment.
Mais ils peuvent le regretter très longtemps, ce deal.
Évidemment.
Voilà, je te propose ensuite d'enchaîner sur, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions sur l'Inter, mais il me semble qu'on a été bon. Sur Sassuolo Juve. Match qui avait lieu dimanche à 18h, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Ah, exactement.
Alors évidemment, c'est un match qui était assez attendu pour plusieurs raisons. La première, c'est que Sassuolo, contre les grandes équipes, cette saison réalise des choses assez intéressantes. On se souvient d'ailleurs du match aller, où Sassuolo était allé les yeux dans les yeux à l'Allianz Stadium ils avaient perdu quand même, mais on avait vu quand même une équipe qui avait voulu jouer son jeu, qui avait mis en difficulté parfois la Juve sur certaines phases, et c'est pas donné à tout le monde de le faire sur le terrain de la Juve. Deuxième chose, c'était évidemment la Juve, et bah la Ligue des Champions approche, donc on scrute toujours un peu plus ce qu'ils sont capables de faire. Et on a vu, alors je vais évacuer le sujet Sassuolo assez rapidement parce qu'on va plutôt se concentrer sur ce qu'on a vu de la Juve. Sassuolo, on a vu 15 bonnes premières minutes, 15-20 premières minutes intéressantes, avec beaucoup de pression sur la défense adverse et notamment sur la charnière, avec un Rugani encore très très limite. Un bon premier comment dire, une bonne première partie de match de Stefano Sensi, qui a encore régalé sur certaines sorties de balles, évidemment. Dans l'orientation du jeu, il est toujours aussi intéressant. Il y a la fameuse polémique de la VAR sur le contact Chesney.
Il va falloir en parler.
Bon, je suis même pas sûr que ce soit très intéressant d'en parler, parce que pour avouer la chose, on a parlé rapidement avant de commencer l'enregistrement du podcast, et ni toi ni moi ne savons réellement quoi dire de cette action. Siffler, pas siffler, donc écoute.
Disons que c'est quand même débat en Italie, parce que.
Oui, mais en Italie, l'arbitrage, c'est un débat national chaque lundi, donc. Voilà, je pense que c'est pas le plus intéressant de ce match-là, mais c'est un fait de jeu, voilà. Il y a eu le tir de Locatelli aussi qui a été bien arrêté par le gardien polonais de la Juve. Et ensuite, il y a eu deux choses intéressantes. La première, c'est que Bernardeschi, à la demande d'Allegri, est allé se mettre dans la zone. Alors, il a commencé ailier droit, hein, pour préciser la chose. Il a commencé à aller se mettre dans la zone de Sensi.
Exactement. C'est quoi le quiste?
Exactement. Il l'a beaucoup gêné. Une très grosse pression, il a récupéré d'ailleurs quelques ballons intéressants dans la zone de Sensi. Donc le jeu de Sassuolo a commencé à perdre en efficacité, puisqu'on sait que on connaît les circuits de passe de Sassuolo, et c'était Sensi a un rôle prépondérant dans la mise en place de ce jeu. Et ensuite, il y a Pjanic qui a décidé de prendre les choses en main. Vraiment, le jeu à son compte, qui s'est un peu réveillé. Il avait pas été très bon lors du dernier match, Pjanic, et là il a été vraiment pas mal. J'ai bien aimé le milieu de terrain de la Juve, du coup, parce que on avait clairement le Pjanic qui construisait d'assez bas, et puis les milieux comme Khedira et Matuidi qui n'hésitaient pas à aller dans les espaces, à apporter beaucoup aux abords de la surface, à la conclusion des actions. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, le premier but, ça vient d'une récupération assez haute. Khedira est à la conclusion. Matuidi a récupéré aussi également beaucoup de ballons dans les pieds des joueurs de Sassuolo. Il y a une densité physique qui est revenue un peu du côté de la Juve. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, puisque évidemment, la Serie A, on sait que c'est bouclé. Bon. Pour la Ligue des Champions, ce match face à l'Atletico, on attend quand même beaucoup le retour de Chiellini et Bonucci, parce qu'encore hier, sur certaines phases, Caceres et Rugani, c'est léger.
C'est quand même, c'est très faible. Bah, c'est très faible. C'est ma bonne question. Voilà, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que quand tu passes de Bonucci et Chiellini à Caceres et Rugani, il y a 3-4 galaxies d'écart, évidemment. Et j'ai regardé les propos de Buffon interrogé sur Sky après le match du PSG, c'était samedi, où ils ont posé la question, mais est-ce que la Juve, sans Chiellini et Bonucci, ils perdent beaucoup en vue de l'Atletico? Il lui disait, bah, évidemment que, même si là, il avait un peu la langue de bois en disant, bah, Rugani et Caceres ont évidemment le niveau, mais c'est vrai qu'il disait, sans Chiellini et Bonucci, c'est une autre Juve, et on le voit à chaque match. On rappelle qu'ils ont encaissé 3 buts contre l'Atalanta en Coupe d'Italie, ils ont encaissé 3 contre Parme, à domicile. Donc je pense que les tifosi de la Juve attendent Chiellini avec impatience. Bonucci, moi je le trouve pas énormissime cette saison, mais il fait quand même son boulot, et je trouve que Chiellini compense aussi beaucoup ses erreurs parfois. Mais c'est vrai que quand on passe de ces deux charnières là, il y a un monde d'écart. Donc et on l'a vu encore dimanche contre Sassuolo. Comme tu disais, je pense que De Zerbi avait axé aussi sur sa tactique là-dessus, c'est de presser la première relance et de gêner Rugani et Caceres. C'est d'ailleurs l'occasion du penalty ouillant arrive sur une erreur de Rugani. Donc et Rugani d'ailleurs qui va prolonger, hein, Paratici qui l'a annoncé avant le match, qui va prolonger. Donc c'est vrai que Rugani, c'est assez compliqué depuis qu'il est titulaire. C'est quand même quelques matchs, dû aux blessures évidemment, mais c'est pas l'assurance tout risque.
Mais on en revient à ce qu'on disait il y a 2-3 podcasts, je crois, sur Rugani, c'est que à force de ne pas jouer, forcément, t'as de moins en moins de repères. Donc, alors en plus, quand tu joues à côté d'un autre défenseur qui vient de revenir à la Juve après 6 mois ailleurs. Enfin, même un peu plus de 6 mois ailleurs, qui est pas un grand défenseur central de métier, etc. Qui, moi, je le préfère un peu plus sur un côté où il apporte plus de punch pour un latéral à l'ancienne, entre guillemets. Bah, c'est sûr que déjà Rugani, quand tu joues avec Bonucci à tes côtés ou Chiellini, c'est quand même déjà plus simple. Là, jouer avec Caceres sur ces matchs-là, c'est compliqué. Mais lui, évidemment, il a plus aucun repère.
Mais il faut rappeler que Rugani était quatrième choix, hein, parce qu'il y a Benassi qui est parti entre temps. Mais avant, avant janvier et avant le départ de Benassia, c'était quand même le quatrième joueur au gagné. C'est vrai que tu te rappelles, on l'a souvent souligné à l'époque, c'est qu'on ne voyait plus du tout. Hein, au point qu'on se demandait ce qu'il allait faire. Lui, sur son avenir, a toujours été quand même assez sûr en disant qu'il voulait rester à la Juve. Mais c'est vrai qu'on ne le voyait plus du tout. Et d'un coup, forcément, il est propulsé titulaire dû aux blessures et dû au départ de Benassia. Et comme tu dis, surtout avec Caceres qui vient d'en venir dans une Juve quand même qui est totalement différente. Donc forcément, voilà, les deux ont du mal à se trouver. La charnière n'est pas très solide. Donc en vue du match contre l'Atlético, je pense qu'Allegri va tout faire pour récupérer Bonucci Chiellini. Je pense que ça devrait aller. De ce que je dis, de ce que j'entends, les deux devraient être mis sur pied. Est-ce qu'ils seront à 100%? C'est une autre question. Mais je pense que même dans la tête, quand tu joues avec Kelly Bouchy derrière, même s'ils ne sont pas à 100%, je pense que toute l'équipe va gagner en sécurité et en sûreté. Donc, c'est sûr que leur retour est primordial avant le match contre l'Atlético Madrid.
Bon, et puis il faut préciser quand même que sur les deux derniers matchs, ils ont joué avec seulement un défenseur à chaque fois titulaire, puisque contre Parme, de mémoire, c'était Cancelo qui était l'unique titulaire de la défense à 4 normalement de la Juve, et là sur ce match c'était Alexandro. Donc voilà, donc il y a aussi un peu plus de fébrilité, on va dire ça comme ça, dans ce secteur-là aussi, parce que bah tu joues avec 75% de remplaçants, et dans n'importe quel club, je pense que tu serais un peu plus fébrile avec 75% de tes remplaçants titulaires en défense centrale. Mais c'est vrai que là, l'objectif Serie A, il est bon. Maintenant, l'objectif Ligue des Champions, t'as pas le droit à l'erreur quand tu t'appelles la Juve et que t'as fait venir Ronaldo pour ça. Donc, la pression augmente tout doucement.
S'il y a élimination, c'est un gros échec. Hein.
Exactement. Et puis, je voulais juste rajouter un petit truc sur, j'ai oublié d'en parler sur Sassuolo. Quand même, c'est que pour le jeu prôné par De Zerbi, Consigli, ça devient un peu limite, il est un peu limité dans les relances au pied. Au Genoa, c'était déjà passé tout proche de coûter un but à son équipe. Là, ça a coûté un but directement et l'ouverture du score d'ailleurs. Donc c'est ça qui a un peu déclenché la mise à mort de Sassuolo. Mais c'est vrai que autant il peut être bon sur sa ligne, etc., autant dans le jeu au pied. Bon, on verra ce que fera du coup Sassuolo l'année prochaine, s'il continue avec lui ou pas. Mais c'est vrai que j'imagine que De Zerbi aimerait bien un mec un peu plus fiable dans le jeu au pied, évidemment. J'ai beaucoup parlé, Guillaume. Et donc,
mais c'est normal.
Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ça va être à toi et je vais t'écouter religieusement. Sur le Milan-Cagliari, victoire nette et sans bavure, 3-0 de Milan. Alors il y a deux aspects peut-être à évoquer. Le premier, plus rapidement, parce qu'on a déjà touché un mot la semaine dernière, c'est mercato d'hiver vraiment réussi du Milan. Piontek et Paqueta encore décisifs. Et puis après, tu voulais nous parler de Calabria.
Écoute, sur ton premier point, évidemment, mercato encore réussi, les deux encore marqués hier, Paqueta Piontek, donc une connexion qui fonctionne. Piontek, c'est quand même assez impressionnant.
Ouais.
Il y en a 4 buts en 4 matchs. Si on compte sa rentrée contre le Napoli en championnat. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il attire le ballon, comme disait un peu Fabio Caressa, le journaliste de Sky. Il disait, c'est vrai que même quand le ballon ne va pas vers lui, il y est, quoi. Donc, le but qu'il met, c'est un but de renard. Et c'est assez impressionnant. Il réalise une saison stratosphérique. Et pour le moment, je pense que les tifosi du Milan ne vont pas se plaindre du départ d'Higuain qui quelques heures plus tôt sombrait contre City, et puis Piontek qui ne cesse de flamber, donc c'est sûr. Et Paqueta, j'en ai déjà parlé, moi j'aime beaucoup sa façon de jouer. Il fluidifie le jeu, il accélère, il joue en une touche. Hier, Gattuso a demandé de jouer un peu plus en 10 en phase de possession, donc voilà, il se passe entre les lignes. Hier, il marque son premier but qui est mérité. Il faut aussi souligner qu'il y en a 7 matchs consécutifs depuis son arrivée. Il a joué tous les matchs. Donc pour un Brésilien qui vient de Flamengo, c'est assez rare, parce qu'on sait que généralement il y a une adaptation, voilà, de comprendre les mécanismes et j'en passe. Mais c'est vrai que lui, on est à 7 matchs consécutifs, donc c'est assez impressionnant. Donc comme tu dis, Mercato d'hiver réussi, et Paqueta, voilà, il est quand même un gros coup, même s'il a coûté 35 millions, je pense que ça pourrait être vite, il pourrait vite coûter plus cher. Et pour Calabria,
je me permets de te couper. Puisqu'on a deux questions en rapport avec le milieu de terrain de l'AC Milan. La première est très intéressante. Comment Gattuso, donc c'est Rossonero avec 4 ou 5 O, comment Gattuso va-t-il réintégrer Bilia Et dans un futur lointain, avec le retour de Bonaventura, qui sera titulaire au milieu?
Bonaventura, on va pas en parler parce qu'il sera de retour la saison prochaine, donc c'est un peu loin. Concernant Bilia, bah, c'est simple, la question lui a été posée hier par Di Cagno, je crois, qui était sur le plateau de Sky, qui lui a demandé, alors, Bilia va revenir, et Bakayoko, du coup, qui est quasiment le meilleur à chaque match, et il disait à Gattuso, bah, il tutoyait, il disait, mais tu vas faire quoi? Et il disait, bah, c'est sûr que c'est un problème, il dit c'est un bon problème, mais il dit évidemment que le retour de Bilia, alors il dit faudra du temps parce que il fait du longue blessure, donc il va pas prendre de risques tout de suite, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Est-ce que t'enlèves Kessi qui a quand même voilà quelques progrès, même s'il y a beaucoup de déchets en phase offensive? Bakayoko, honnêtement, tu peux pas l'enlever, c'est pas possible. C'est sûr que c'est un vrai débat. Et quand je sais que t'aimes Bilia, je sais que t'as envie de le voir jouer, donc j'espère qu'il le fera jouer. Non, mais évidemment, sans rire, évidemment que c'est un vrai débat, mais pour le moment, Bakayoko, je pense que c'est le seul point fixe du milieu de terrain.
Et tu penses pas que Paqueta est en train de le devenir, du coup?
Paqueta, moi, honnêtement, je pense que peut-être qu'il finira quand même numéro 10. Pour le moment, le 4-3 va pas bouger, mais je pense qu'à la fin, Paqueta va quand même peut-être avancer d'un cran. Et s'il reste en 4-3-3 jusqu'à la fin de la saison, comme tu dis, Paqueta, Bakayoko, je pense que ça bougera plus. Peut-être le seul qui pourrait sauter, c'est Kessi. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Après, Bilia a aussi son âge. Est-ce qu'il va revenir au niveau? Est-ce qu'il va se remettre de sa blessure? C'est une autre question. Donc, attendons de voir. Mais comme disait Gattuso hier, c'est un bon problème. Donc, je pense qu'il est content de récupérer Bilia, qui est aussi important sur le terrain.
Et puis, on avait une deuxième question de Soupli Lucas. Paqueta Piontek, d'accord. Mais Milan peut-il maintenir ce cycle victorieux quand on voit le niveau qu'affichent Çalhanoğlu et Kessier depuis des semaines, voire des mois?
Çalhanoğlu, hier, je l'ai trouvé un peu mieux, honnêtement. Voilà, il y a encore eu quelques erreurs assez aberrantes, c'est vrai, surtout dans la dernière frappe. Il rate beaucoup d'occasions. Il s'est fait un peu siffler. Il a été appelé quand il est sorti. C'est vrai que Çalhanoğlu, c'est pas le Çalhanoğlu qu'on a pu voir même à Leverkusen, mais c'était un autre poste. Comme tu l'as dit, pour moi, Çalhanoğlu doit jouer au cœur du jeu. Mais alors, au-delà du poste, je dois avouer que c'est vrai qu'il est vraiment pas au top de sa forme. Gattuso, pour le coup, moi, je peux assurer que Gattuso n'enlèvera pas, parce que c'est vraiment son joueur. Il insiste sur ça. Çalhanoğlu ne bougera pas. Donc ça, c'est évident. La question, c'est de savoir si Milan pourra enchaîner les victoires avec ces deux joueurs, avec Kessi qui est aussi pas trop bien. Écoute, Gattuso, pour revenir un peu même sur le match d'hier, plus globalement, c'est que Gattuso, depuis quelques matchs, n'encaisse plus de buts. Et son objectif prioritaire depuis la reprise, c'était on redescend bas, on fait un bloc solide pour ne plus encaisser de buts. Retrouver une solidité de base, ne plus encaisser, et ensuite tenter de marquer sur 2-3 occasions. Ils l'ont fait à Rome, tu te souviens? Ils ont fait beaucoup d'occasions, ils le font avec Piontek. Hier, même en phase défensive, les 11 étaient concernés. Donc, c'est ce que veut Gattuso, vraiment une solidité. Et c'est pour ça que parfois la production offensive est pas folle. Mais pour le moment, c'est ce que veut Gattuso. Donc, je pense que son 11 ne changera pas. Il va rester comme ça. Donc, est-ce qu'ils arriveront au quatrième? Moi, je sais pas. Pour le moment, les résultats sont là. Il y a un gros match le samedi contre l'Atalanta. On verra si ça va tenir. Mais c'est sûr qu'au niveau spectacle, et Souza l'a dit, Souza a dit dans une interview à Sky, je sais pas si tu l'as vu, où il disait, parfois, on doit jouer latéraux. C'est vrai que Gattuso, moi je dois avouer, je suis pas fan de ça. Hein. Je suis pas fan du jeu produit, le bloc bas en 20 mètres. Moi j'ai toujours un peu de mal, mais pour le moment ça marche. Ils ont encaissé, je crois, 4 buts depuis 7 matchs. Il y a que le Barça qui a fait mieux en Europe, donc ça marche au niveau de la solidité. Après, voilà, moi c'est vrai que je suis pas trop fan, mais pour le moment ça marche, donc on peut pas dire grand chose sur ça. Et si tu veux, je continue sur Calabria, peut-être.
Exactement.
Voilà, Calabria, écoute, oui, je voulais le souligner parce que il fait beaucoup de progrès. Je crois qu'il en a 4-5 passes décisives cette année, donc c'est beaucoup. Il en fait encore une hier pour Paqueta, il fait un joli centre. Donc beaucoup de progrès pour lui. Moi, je pense qu'il aurait mérité d'être appelé en équipe d'Italie, surtout que les latéraux, on n'a pas beaucoup. Mais vraiment,
qu'est-ce que
tu as
contre Darmian, Zapacosta et compagnie?
T'as tout dit. Et c'est vrai que Calabria, pour le coup, autant abatté, qui a été formé à Milan, a toujours un peu stagné, ça n'a jamais été ce grand joueur qu'on a peut-être envisagé il y a un temps. Mais autant Calabria est en train de vraiment prendre une autre dimension. Tout à l'heure, on m'a demandé aussi sur Twitter, mais pourquoi qu'on ne t'y joue pas depuis qu'il est revenu? Tout simplement parce que Calabria est vraiment difficile à bouger. Il est vraiment, tu l'as même vu, je pense, contre la Roma, il avait fait un bon match.
Oui.
Donc, Calabria, honnêtement, c'est difficile de le bouger en ce moment. Donc, Conti, c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire. Parce que Conti est récupéré physiquement, mais il n'arrive pas à déloger Calabria, qui est très fort. Donc, moi, je tenais à le souligner que voilà, Calabria en prend une nouvelle dimension. Et pour Milan, ça, c'est important. C'est un joueur formé au club, qui est très attaché aussi à Milan. Donc, voilà, je crois qu'il y en a 5 passes décisives en tout, si je ne m'abuse. Donc, c'est assez important pour l'intéral.
Donc, voilà, je est-ce qu'on ne serait pas parmi les défenseurs de Serie A qui ont réalisé le plus de,
oui, c'est possible,
de passes décisives, du coup?
Ouais, et surtout qu'on sait que voilà, les tifosi du Milan le savent, au niveau de du latéral droit, il y a toujours eu un problème de centre. On sait qu'Abate, au niveau du calibrage, a toujours eu un peu de mal à calibrer ses centres précisément dans la surface, toujours ou trop loin.
Disons qu'il visait une zone, mais la zone, c'était toute la surface. Donc c'était un peu
compliqué. Soit le troisième poteau, soit le premier, dégagé facilement par le défenseur, un peu un classique. Mais voilà, c'est vrai que Calabria, je tenais à souligner ses progrès. Et sur le match, honnêtement, comme tu l'as dit, pas grand-chose à dire. Cagliari, ça a été très faible. Barella a fait un bon match quand même, moi j'ai bien aimé. Après Milan, voilà, 3-0. Le vrai test, honnêtement, ce sera samedi contre l'Atalanta. Mais ne spoilons pas ton calendrier de tout à l'heure. Je te laisse.
Alors, j'ai une petite question, parce que Calabria, actuellement, tu me dis 5 passes décisives.
Alors, peut-être toute compétition confondue, mais je crois que j'ai lu tout à l'heure dans la Gazzetta où il me semblait que j'ai lu 5 ou 6. Il me
parce
semble.
Qu'il est à une en Serie A, c'est pour ça que je préfère rectifier avant de m'afficher.
Ah, bah non, bah écoute, je suis persuadé d'avoir lu 5 ou 6. Si je me trompe, je ferai un mea culpa sur Twitter,
public, mais alors, bien sûr.
Mais public et sur la place publique en plus, je ferai une conférence de presse pour m'excuser.
Parce qu'on sait même, parce que du coup, vu que j'ai parlé des stats en Serie A, celui qui est en tête, c'est Lazzari, évidemment ton chouchou.
Oui.
Avec 7 passes décisives, et derrière, on a Attebourg de l'Atalanta avec 4 passes décisives, mais c'est dans
Lazzari,
des rôles un peu
7,
plus
hein.
offensifs quand même.
Lazzari, 7, c'est quand même, quand t'as la SPAL,
c'est le troisième meilleur, passeur décisif de Serie A.
Mon chouchou qui mérite beaucoup plus.
D'ailleurs, Souzo, je crois qu'il en a pas réussi une depuis un petit moment, parce qu'il est toujours à 8. Écoute, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'il est à 8.
Ouais, Souzo, quelques problèmes physiques, on soupçonnait une pubalgie, alors ça n'a pas été confirmé, mais c'est vrai que physiquement, il n'y est pas hier, il a encore une occasion assez énorme, un face-à-face facile. Souzo, pour le moment, il n'y est pas. Est-ce que c'est des problèmes physiques? Oui. Là, on sait qu'il était papa depuis pas longtemps, donc c'est tout bête, mais ça peut jouer aussi. Il peut aussi avoir un peu la tête ailleurs. Donc, c'est sûr que c'est pas le Souzo qu'on a pris en début de saison. Donc, on sait qu'il a toujours un passage à vie en hiver, toujours un peu compliqué pour lui. Je sais pas pourquoi. Peut-être le temps, Milan un peu nuageux, le brouillard, peut-être.
Oui.
Mais c'est vrai que Souzo l'hiver est généralement pas en grande forme, mais ça se confirme. Donc, c'est vrai que c'est, alors que la production offensive, on l'a souvent souligné, ça passe souvent par lui.
Exactement.
Donc c'est compliqué. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il stagne depuis même, j'ai envie de te dire, allez, on va dire un bon mois et demi.
Oui.
Donc c'est sûr que ce sera important pour les autres de le récupérer.
On va enchaîner avec le dernier match mis en avant lors de ce 27e épisode du podcast, c'est Chievo-Roma.
Oui.
Donc ça avait lieu vendredi soir avec cette fameuse journée éclatée sur sur 4 jours.
Rien fait dans le vendredi soir. Tu es resté devant ta télé. Sagement
oui.
Devant la Roma.
Exactement. Je dois bien le confesser. Écoute, il n'y a pas énormément de choses à dire. La première, c'est déjà que le Chievo est très faible, mais ça, on le savait, il serait pas à cette position-là si ce n'était pas le cas. La deuxième, c'est que pour une fois, Sorrentino n'a pas fait le match de sa vie contre la Roma. Et ça, c'est une vraie première, je dois bien l'avouer.
Il le fait souvent contre l'Inter ou Milan ou lui aussi. Hein. Sorrentino s'exalte souvent contre les grands.
C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'il n'a pas été particulièrement décisif. Moi, ce que j'ai aimé, évidemment, puisque c'est un peu mon sujet de prédilection en ce qui concerne la Roma depuis quelques semaines, c'est le retour à un milieu à 3 qui te donne un peu plus de maîtrise au milieu. Là, c'était une Nzonzi en sentinelle vu que De Rossi était au repos pour le match de Ligue des Champions, avec à sa gauche Zaniolo en mezzala, et de l'autre côté, c'était Brian Cristante qui était sur le côté droit. Autre observation, sans Manolas, la défense centrale est toujours aussi fébrile. Même si le Chievo est particulièrement maladroit ou a quelques difficultés à se créer des occasions et a pas été très très bon lors de ce match contre la Roma, il y a quand même eu une ou deux situations qui sont liées à un mauvais marquage, à un mauvais alignement, à un ballon en profondeur qui est mal géré, à un second ballon qui est pas attaqué. Voilà, donc ça, là encore, hein, une des variables pour la Roma, ça sera de réussir à avoir Manolas en grande forme jusqu'à la fin de la saison, puisque c'est le seul défenseur central vraiment qui réussit à être au niveau de ce qu'on attend d'un club comme la Roma. Autre chose, le troisième but de Kolarov, c'est un but à la Di Francesco. C'est vrai qu'on parlait la semaine dernière et moi je disais que ça faisait quand même un an et demi qu'on voyait pas forcément le jeu de Di Francesco à la Roma, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir des résultats tout à fait honorables. Hein. Mais c'est vrai que dans le jeu on voyait pas grand chose et là ce but est typique et labellisé Di Francesco. Action très rapide et verticale à la récupération, une sorte de contre-attaque, du mouvement. Un attaquant qui sert d'appui, c'était Dzeko, une combinaison El Shaarawy, Dzeko, Kolarov qui attaque la profondeur. C'était un très beau but d'ailleurs, mais c'est vrai que bon, si on réussit à avoir la Roma qui ne ronronne pas et qui gère pas toujours le ballon de manière lente et passive, mais qui réussit à attaquer un peu plus la profondeur, ça sera évidemment une très bonne chose. Et puis un dernier petit point quand même sur El Shaarawy. 8e but en 15 rencontres cette saison, 12 titularisations en Serie A. C'est évidemment l'ailier le plus décisif de la saison côté Roma, parce que si on compte un Perotti qui est tout le temps blessé malheureusement, un Cengiz Under qui est un peu moins décisif et qui est blessé de lui depuis un mois quasiment, c'était le match contre, je ne sais déjà plus, le Torino peut-être bien, oui c'est... Sassuolo sans doute, où il s'est blessé, c'est un de ces deux matchs-là. Et avec Justin Kluivert qui a du mal encore à s'intégrer au système de jeu et surtout à comprendre toutes les consignes individuelles que lui passe Di Francesco. D'ailleurs, il a donné une interview à... Alors évidemment, j'ai plus le média en tête. Je me demande si c'est pas ESPN avec James Horncastle, qui est un très bon suiveur de Serie A. Qui allait l'interviewer à Trigoria ces derniers jours, et il disait je sens que je comprends de mieux en mieux ce qu'on me demande, etc. Donc bon, il a l'air de s'intégrer mieux. Il a parlé notamment du rôle de De Rossi, qui est un des rares à avoir un anglais parfait dans cette équipe pour pouvoir échanger avec lui, lui transmettre les consignes, etc. Donc ça a l'air d'aller un peu mieux pour lui, et l'adaptation était un peu difficile, mais El Shaarawy est lui sur un peu une autre planète cette saison. Il a déjà mis le même nombre de buts que la saison passée, alors qu'il est qu'à 15 rencontres de Serie A. Ça va être quand même sa quatrième saison où il a 7 buts ou plus. Quatrième saison consécutive. Donc voilà, donc c'est un élément qui est intéressant. Et aussi intéressant évidemment pour l'équipe d'Italie, hein, puisque des joueurs de côté, oui, il n'y en a évidemment. Pas non plus 500 000, notamment du côté gauche, puisque à droite encore, on peut avoir Chiesa, on peut avoir Bernardeschi qui peuvent être sur ce côté-là. Mais à gauche, si Insigné est confirmé comme attaquant de pointe, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Donc voilà, El Shaarawy qui s'était planté à Monaco, mais depuis qu'il est à la Roma, quand même, on doit reconnaître que il est très satisfaisant et notamment très décisif pour son équipe. Je te propose de conclure avec 3-4 questions qu'il nous reste. Il y en a évidemment plusieurs sur la course à la quatrième place. On a Antonio Lassala. À ce rythme-là, le Milan peut-il finir troisième de Serie A? On a aussi également Florent. Non, c'est pas Florent. C'est Nico. Qui, selon vous, va craquer pour la lutte des troisième et quatrième places? Les cinq prochaines journées sont déterminantes pour l'interrogation. Bon, toutes les journées sont déterminantes. Hein.
Évidemment, surtout qu'il reste le derby de Rome, il reste le derby de Milan, il reste des gros matchs. C'est compliqué à dire qu'il va craquer. Des clubs en course, on peut dire que de la quatrième place, c'est vrai que la course peut être sur la troisième, dans le sens où l'Inter est quand même la moins en forme et a laissé beaucoup de points en route. Moi, je pense qu'elle s'est peut-être vue un peu trop belle à un moment. Tu te rappelles, il y avait un petit trou quand même entre les équipes. Elle s'est laissée un peu aller. Du coup, bah voilà, il y a 4 points d'écart maintenant. Donc l'Inter est la moins en forme. Après, moi, je pense qu'ils vont se reprendre. Donc ça va suivre. Mais Milan, Lazio, Roma, l'Atalanta, attention qui est là. Et puis Atalanta, Milan samedi. Donc honnêtement, c'est dur de dire qui va craquer. Il y a beaucoup d'équipes en course et en peu de points. Donc,
alors, on a une question bien. Un peu plus polémique de Maxime Tognieri qui nous dit. Pour l'image de la Serie A à l'étranger, ne vaut-il pas mieux que le Milan ou la Roma se qualifient en Ligue des Champions plutôt que des équipes moins médiatisées comme l'Atalanta ou encore la Lazio?
Ah, du coup, tu me la laisses à moi.
Je peux répondre si tu veux, hein, ça me pose pas de problème. Bon, moi, je pense que. Je vais répondre et après tu me diras ce que t'en penses. Oui. Moi, je pense déjà que iront en Ligue des Champions ceux qui l'ont obtenu sur le terrain.
Exactement.
Tout simple. Ouais. C'est basique, hein, mais c'est la vérité du terrain, voilà, et on peut pas y couper. Ensuite, pour l'image de la Serie A, évidemment que les gros clubs doivent être en Coupe d'Europe, parce que c'est des clubs qui sont plus suivis, mais aussi pour des questions de performance, parce que si on a des gros clubs en Coupe d'Europe, ils ont plus de chances de performer que des clubs invités ou des clubs surprises sur une saison. Donc ça, c'est évident. Maintenant, voilà, hein, c'est si l'Atalanta continue sur cette lancée-là et que elle a son jeu toujours aussi séduisant, bah moi, j'aimerais bien les voir en Ligue des Champions la saison prochaine. Il n'y a pas de contre-indication non plus. Donc pour l'image, peut-être. Surtout, oui, effectivement, que c'est des clubs qui sont quand même plus suivis. Le Milan pour son passé, notamment. La Roma qui reste sur une demi-finale de Ligue des Champions. Donc évidemment que ça peut paraître un peu plus logique, entre guillemets, mais tout est ouvert.
Je rajoute une petite chose sur l'Atalanta. Évidemment que moi, ça me ferait plaisir qu'elle aille, parce que c'est vrai que c'est une belle réalité de la Serie A, c'est avec un super coach. Après, faut pas oublier une chose, c'est que si l'Atalanta se qualifie, on va encore avoir le problème du terrain. Tu te souviens, l'Atalanta Europa oui. League jouait à Sassuolo. Donc, voilà, ça je trouve que c'est pas forcément une belle image en soi pour la Serie A, parce que là, moi, j'adore le stade de l'Atalanta, mais c'est vrai que si tu te qualifies en Ligue des Champions et que tu joues pas dans ton stade, forcément, il y a quand même un arrière-goût qui est un peu mauvais. Donc, voilà, en soi, je suis d'accord avec toi, sinon la vérité du terrain parlera. Si l'Atalanta est quatrième, ce qu'elle aura mérité de l'être, donc il n'y aura pas grand-chose à dire. Après, c'est sûr que pour le coup, FUFA et pour les quatre places que la Serie A a actuellement pour la Champions League, c'est sûr que tu as plus de chances de passer le groupe, j'ai envie de te dire, avec Milan ou la Roma, qu'avec l'Atalanta. Mais si l'Atalanta y est, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle l'aura amplement mérité, ce sera très bien pour cette réalité.
Une question d'Elio Gusti, a priori. Un petit point sur les chances de Brescia en Serie B. Bah écoute, ils sont leaders, donc les chances, elles sont plutôt bonnes. Quand t'es leader, forcément, 6 points d'avance sur le 3e. On sait que les deux premiers montent directement. Et ensuite, de la 3e à la 8e place, il y a des playoffs qui sont disputés. Donc oui, pour le moment, ils sont clairement bien placés pour monter, et puis en plus ils ont un joueur qui est en feu, hein, on va dire ça comme ça. Son prénom c'est Alfredo, non c'est pas ça. Ouais, Alfredo Donnarumma. Oui. 28 ans, l'attaquant qui a déjà marqué 21 buts en 19 journées. Enfin en 19 matchs, pardon, il y a un peu plus de journées, mais 21 buts en 19 matchs, c'est plutôt pas mal, sachant que le deuxième est à 13 buts hein, dans le classement des.
Après, ce qu'on peut dire, ce serait bien que Brescia remonte. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une place assez historique de la Serie A. Moi, j'ai surtout le souvenir que c'est le dernier club de Baggio.
Ouais.
Donc voilà, c'est vrai que Brescia, ça reste quand même une, voilà, comme on dit en Italie, une place importante du championnat. Donc une remontée en Serie A serait plus que bénéfique pour le championnat.
Et puis ça nous permettrait peut-être de voir Tonali sous le maillot de Brescia.
S'il reste.
Voilà, s'il reste, ça serait un peu la même situation que Verratti quand Pescara est monté, entre oui. choisir de rester dans son club ou partir tenter une aventure ailleurs. Et puis Brescia, c'est aussi le club qui a fait découvrir Marek Hamšík au football italien. Et ça, c'est, on leur en est évidemment reconnaissant. Autre question. Si la Roma ne se qualifie pas en Champions League, devra-t-elle vendre beaucoup? Oui et non, on verra bien. Il y a eu quand même beaucoup de recettes la saison passée, mais là, si tu perds l'argent de la Ligue des Champions, évidemment, ça va être très compliqué. Et si elle doit vendre, ça reste à déterminer, mais il y a des joueurs qui voudront sans doute pas rester sans Ligue des Champions. Donc ça, c'est évident. Ensuite, Nico, notre fameux Nico, qui nous demande, pouvez-vous rassurer tous les supporters de la Roma en disant qu'un départ de Zaniolo est impossible? Et bien écoute Nico, si tu connais un petit peu ce club et la politique sportive actuelle, on ne peut rien te promettre de ce côté-là, même si la prolongation de contrat est dans les tuyaux, mais tant que rien n'est signé, on peut évidemment rien promettre. Deux questions finales. Milinkovic-Savic retrouve-t-il un niveau correct? Sa valeur marchande est-elle affectée par ses performance moyenne jusque là, Guillaume?
Ça tombe mal, il s'est blessé.
Exactement. Non, je t'ai lancé parce que figure-toi que je suis à la recherche des déclarations d'Inzaghi ou du communiqué de la Lazio.
Vas-y, je peux meubler entre temps.
Si allez, vas-y.
Je peux meubler. Oui, donc Milinkovic-Savic s'est blessé. Sa valeur marchande, évidemment, a baissé forcément en vue de ses performances qui sont moins bonnes que la saison dernière. On est quand même passé, l'été dernier, l'Otito réclamait autour de 130-140 millions. Donc forcément, l'été prochain, ça serait compliqué d'imaginer un tel prix, même une telle offre. Il y a une équipe qui s'en est approchée, l'Otito n'a pas voulu dire laquelle. Beaucoup disent le Real, qui aura offert un peu plus de 100 millions. L'Otito a refusé. Moi, je pense que son prix, forcément, a baissé. Après, combien, ça, c'est à
Je
la
pense
vie.
qu'il a grandement chuté, moi, quand même.
Ouais, moi, je pense que même peut-être plus de la moitié, tu vois.
Ouais,
Parce que
exactement.
130, si on passe. Après, il faut dire que le prix de base, aussi, quand il était au top de sa forme, était aussi exagéré, hein,
Oui,
parce que
bien sûr.
comme l'inflation du mercato et des prix fait que les prix explosent dans tous les sens, déjà son prix de base était énorme. Et évidemment que maintenant, on va dire qu'il s'est un peu normalisé, un peu comme les performances de
Tu
Milinkovic-Savic.
vois, c'est un peu du Fantacalcio, mais moi je me dis que si la Lazio reçoit une offre de 50 millions d'euros,
Ah oui. Moi, j'aurais dit ouais, peut-être 80, tu vois. Je sais pas. Après,
non,
comme
moi
tu
je pense
dis.
que ça pourrait partir en dessous de ça. C'est comme un joueur comme Şengiz Ünder à la Roma. Tu vois, si je pense que si la Roma reçoit 50 millions d'euros,
Ou comme
bon,
Belotti.
ouais, voilà. Mais je pense que
Ouais.
ça peut, il peut partir à ces tarifs-là. Pour ce qui est de sa blessure, donc j'ai retrouvé les déclarations, le communiqué du coordinateur du staff médical de la Lazio, le dottore Fabio Rodia, de son nom, qui a expliqué que c'était pas des bonnes nouvelles. Il est sorti jeudi, donc c'était contre Empoli, lors de la victoire 1-0 de la Lazio, pour un problème à l'adducteur. Les examens ont mis en évidence une lésion de premier degré à l'adducteur de la jambe gauche. Donc voilà, donc ça sera étudié au jour le jour. Il fera des nouveaux examens dans quelques jours et on verra quand il pourra revenir. Mais bon, une lésion à l'adducteur, c'est quand même très compliqué, hein. Ça va se chiffrer
Attention, parce qu'il y a
en...
il y a le derby qui arrive, hein.
Ouais, ça va se chiffrer en semaines, je pense, pour lui, parce qu'une lésion à l'adducteur, on sait que l'adducteur, c'est un des endroits les plus compliqués à, notamment dans la guérison. Donc voilà pour Milinkovic-Savic. Et la dernière question, qui est de, écoute, de Jen, on va dire, CFC Jen, donc qui est fan de
Ah oui.
Chelsea. Pas Serie A, mais presque. Votre avis sur Sarri à Chelsea? Alors toi, t'as vu le
Oh.
match contre Manchester City, moi c'est pas mon
Oui,
cas.
je l'ai vu, bah, je l'ai vu, enfin, j'ai vu ce qui s'est passé, c'était assez, enfin, même si tu l'as pas vu, hein, je pense que
Oui, j'ai vu le
la
score en
fille,
tout cas.
voilà, elle a vu la fille, ben, t'as pas raté, enfin, t'as raté, voilà,
Exprime-toi, Guillaume.
une énorme fessée, si
Oui,
je
c'est
puis
ça.
dire. Voilà, après, moi, j'ai tellement d'amour pour Guardiola, tu sais, que voilà, dès que je le vois, voilà, je ressens des choses. Mais Sarri à Chelsea. Alors c'est la question aujourd'hui. Même j'ai vu dans les médias anglais qui disent qu'il va se faire virer ou pas. Moi je pense pas, ou du moins pas dans l'immédiat. Je pense qu'il va au moins finir la saison. Tout ce que je sais moi, c'est que Sarri a pris un risque. Et ça c'est un risque qu'il a pris lui en faisant venir Higuain, dans le sens où c'est lui qui l'a réclamé. Il l'a réclamé l'été dernier. Les dirigeants avaient dit non. Du coup il était arrivé à Milan un peu par défaut. 6 mois plus tard, Sarri l'a revoulu. Les dirigeants ont dit d'accord, mais en prêt. D'ailleurs, ce qui s'est passé, parce qu'il est en prêt 6 mois,
Avec les mêmes conditions de prêt que ce
avec
qu'il
les
avait à
mêmes
Milan.
conditions, exactement. Mais c'est aussi, d'ailleurs, je l'avais dit quand il a signé, j'avais dit sur Twitter, Sarri, un peu, toi, comme un peu comme Spalletti Nainggolan, c'est un peu son joueur, Higuain, on le sait. Et c'est vrai que s'il va pas en Ligue des Champions avec Higuain, je pense que Sarri forcément prendra la porte et Higuain bah, retournera à la Juve. Donc c'est vrai que ce sera assez compliqué, mais c'est sûr que voilà, le Sarri Ball dont on a tant parlé, et voilà, c'est sûr qu'hier il a pris un sacré coup. Et voilà, il y a aussi l'image, je pense que tu as vu après le match, quand il ne serre pas la main, Guardiola qui a fait un peu de
Oui.
polémique, lui a dit qu'il ne l'avait pas vu. Donc voilà, c'est encore autre chose, mais au niveau du jeu, voilà, on avait vu quand même des belles choses au début. Il s'était bien adapté, voilà. Mais le problème de Sarri, on le sait, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plan B ou plan C. C'est qu'avec Sarri, bah, tu joues d'une façon. Kanté, pour moi, il joue pas à son poste. Je pense que tout le monde le voit. Mais le problème de Sarri et l'Espagne Napoli pourront le témoigner, même s'ils ont un amour pour lui qui est quand même assez fort au vu de ce qu'il a apporté, ce qu'il a donné à cette équipe. Parce que voilà, il fait pas beaucoup tourner. Il voit que par ses 11 joueurs. Et c'est sûr qu'après ça, bah, c'est compliqué. Après, imagine, il gagne l'Europa League. Est-ce que sa saison serait pas sauvée? Si. En plus, il se qualifie en Ligue des Champions. Donc rien n'est fini, mais. voilà, c'est vrai que bon, le Sarri Bowl, un prix un peu pendant, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué en ce moment, et surtout encore plus après hier, où je crois que c'est la plus grande défaite. Ils avaient jamais pris 6 buts, Chelsea, de l'histoire de la Première Ligue, donc c'est assez impressionnant quand
après,
même.
Après, l'histoire de la Première Ligue, rappelons que c'est début des années 90, donc c'est vrai
oui,
que c'est...
Oui, évidemment.
Parce qu'avant,
oui.
c'était pas c'est la, même, le nom Première
C'est quand même une grosse tâche.
Oui, bien sûr, bien sûr.
6-0, c'est quand même... Surtout qu'à 0 en 20 minutes, quoi. C'était assez... c'était même gênant.
On va boucler ce podcast avec...
Hop. Est-ce que j'aurais pas une question piège?
Ah!
Ma question.
Ah, la question piège de Guillaume Maillard-Pacini.
Est-ce que t'as cru que je t'avais oublié?
Oui, totalement.
Bah, moi, non.
D'accord.
J'en ai pas pour long. Mais je la joue, on va dire, je la fais un peu simple. Je la fais un peu simple, je pense que tu pourras
Donc là, ce que t'es en train de me dire, c'est que si j'ai pas bon, c'est lamentable, c'est ça?
Je te mets une pression énorme.
D'accord.
Je vais te demander.
Oui.
Je vais demander aussi aux éditeurs, voilà, je leur laisse un peu de temps. Je vais te demander les trois meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A. Alors, ne va pas chercher sur Google, parce que je sais que tu es sur ordinateur. Alors, je laisse un peu de temps.
Il faut bien être sur l'ordinateur pour enregistrer le podcast, n'est-ce pas?
Mais voilà, je demande, même aux auditeurs, voilà, ils peuvent chercher les trois meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A.
Donc là, on
ne tape pas sur ton clavier.
On laisse un petit peu de temps, tic-tac pour les
on
auditeurs.
On laisse un peu de temps, on peut dire que le premier voilà, a marqué 274 buts.
Exactement.
Le deuxième...
Et ça remonte à très longtemps.
Et ça remonte à très longtemps. Le deuxième est très récent.
Et c'est un joueur qui paraît que j'aime beaucoup.
Que t'aimes beaucoup, qui portait le numéro 10.
Exactement.
Qui est une légende de la capitale. D'un club de la capitale de l'Italie.
Bien sûr.
Et je trouve qu'il est un peu grossi.
Tu fais un énorme suspense là. Oui, que tu trouves qu'il est un peu grossi, c'est vrai.
Exactement. Et le troisième est une légende du Milan.
Il a aussi joué à la Roma.
Il a aussi joué à la Roma, exactement. C'est une légende du Milan.
Il est scandinave.
Exactement.
Donc tu te doutes bien que j'ai les trois noms.
Bah, évidemment, je sais pas que tu es un mendu.
Voilà. Non, bah, c'est assez facile puisque étant un grand admirateur de Francesco Totti, évidemment, à chaque fois qu'il passait un palier dans le classement des meilleurs buteurs de Serie A, je l'avais, donc je pense que je serais pas loin de pouvoir te citer le top 10.
Allez, vas-y.
Non, on va faire le top 3, j'ai pas envie de m'afficher. Non, mais je pense que je serais capable d'en citer au moins 5 ou 6 du top 10. Le premier, c'est évidemment Silvio Piola.
Exactement.
Donc c'est combien de buts? Il était à une vingtaine de buts,
Piola,
je crois.
Piola, il a 274 en 537.
Voilà. Match. Le deuxième, c'est Totti, donc il s'est arrêté à 250.
Exactement.
Donc il était à 24 buts, du coup, c'est ça?
Exactement.
Bon. Et puis le troisième, c'est Monsieur Nordahl.
Exactement.
Et oui.
Qui en est à 225 buts en 291 matchs.
Ouais, donc le ratio c'est assez dingue. Autre temps aussi. Et lui, je crois qu'il a fait, il a dû faire qu'une saison ou peut-être deux saisons à la Roma.
Il a marqué 210 buts à la Roma et 15. Buts à Milan, pardon. Voilà. Et 15 à la Roma.
Donc je sais pas s'il a fait une ou deux saisons à la Roma, peut-être deux, je crois. Donc peut-être qu'une, je sais plus trop. C'est essentiellement au...
1956-58.
Voilà. Et c'était au cœur, voilà, pour le côté historique, Nordahl au Milan, de l'attaque Grenoli.
Exactement.
L'attaque 100% suédoise avec Gren, Nordahl et Lidholm.
Lidholm.
Voilà. Bon, ça va, j'étais pas mauvais.
Très bien. J'espère que les auditeurs auront trouvé aussi avant.
Bah, j'espère aussi.
Parce qu'on le saura pas, mais...
Non, mais j'espère que personne n'aura sorti du genre Trezeguet, Luca Toni et...
Mais tu sais que Di Natale est sixième. Hein.
Oui.
Est-ce qu'il y a... Roberto Baggio, septième.
Voilà,
José Altafini, cinquième.
Ouais.
Altafini, brésilien du Milan, qui a marqué d'ailleurs un doublé en finale avec des champions. Giuseppe Signori, neuvième, avec Del Piero. Et Gilardino, 188 buts.
Gilardino, mine de rien. Je l'aurais pas mis dans le top 10, tu vois.
188 buts. Et Batistuta est 12e avec 184.
Ah oui, donc ça se joue en très peu après, en très peu de buts.
Exactement.
Bien. On fait le rappel quand même le calendrier quand même, déjà.
Exactement.
De la semaine prochaine. Alors, on va.
Dimanche, midi et demi. Je veux dimanche.
Tu veux le point marché asiatique.
Évidemment.
On sent que tu aimes ce point marché asiatique.
Bah, tu sais, parce que le dimanche midi, pour tout avouer, je suis toujours en repas de famille. Du coup, généralement, on met le match le dimanche midi en fond.
Ouais.
Alors, tu vois, dimanche, j'ai mis, ça m'a tellement marqué. Qu'est-ce que j'ai mis dimanche midi?
Genoa-Bologne.
Exactement. Genoa. Ah, c'était Bologne-Genoa, exact, avec le but de Destro. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que je vais mettre dimanche en fond de couloir. Voilà.
Eh bien, ce sera, le match entre la Spal et la Fiorentina.
Bon, ça va, il y a la Fio quand même, il y a la Zari, ça peut aller. Ça
ouais, et puis la Zari, ils vendent des maillots en Malaisie, là, c'est un truc de... C'est un truc de dingue.
Exactement.
Alors, le calendrier est encore sur 4 jours, malheureusement, mais là, ce sera lié à Ligue des Champions. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par les Coupes d'Europe, puisque mardi, on aura Roma-Porto. Le match de la Juve sera la semaine suivante, donc il faudra encore... Non, même... Oui, la semaine suivante, donc il faudra attendre un petit peu. En Europa League, on a donc jeudi à 18h55, Lazio-FC Séville. Donc, pas simple pour la Lazio, quand même.
Non.
Ensuite, on a Rapid Vienne Inter également à 18h55 et puis à 21h, c'est ça, on a Zurich Napoli. On a parlé juste avant. Donc 3 matchs jeudi soir, un match mardi en Ligue des Champions et on a donc la Serie A avec vendredi Juventus Frosinone puisque la Juve a son match avancé en raison de sa rencontre de Ligue des Champions face à l'Atlético comme la Roma l'a eu cette semaine. Ensuite, on a samedi 18h Cagliari Parme et Atalanta Milan à 20h30. Gros choc, match très intéressant évidemment à suivre. Donc à 12h30 samedi, nous avons Spal Fiorentina. Le multiplex avec Udinese, Chievo, Genoa, Lazio, Empoli, Sassuolo.
C'est sympa, ça peut aller.
Ouais, c'est plutôt sympa. À 18h, Inter-Sampdoria, aussi sympa, parce que la Samp reste sur une grosse défaite, une grosse défaite très surprenante face à Frosinone, 1-0. Et puis, on bouclera le dimanche avec Naples-Torino. Et enfin, lundi, Roma-Bologne à 20h30, lié évidemment, encore une fois, au match de Ligue des Champions. Voilà ce qu'on peut dire sur les matchs à venir de cette semaine avec les clubs italiens. Dernier rappel, on est comme d'habitude sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast. D'ailleurs, sur iTunes et Google Podcast, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles, petit commentaire. Ça nous fait remonter dans les classements et donc fait découvrir le podcast à un peu plus de monde encore sur Twitter, Facebook, SoundCloud, etc. etc. Et sinon calcioepp.fr pour avoir toutes les informations sur ce podcast. Il me reste à te remercier, cher Guillaume.
Merci à toi.
Merci à nos auditeurs également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débrief du match de Ligue des Champions de la Roma, de l'Europa League et de la 24e journée de Serie A. À bientôt.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.